Chers amis, bonsoir. Vous êtes à l'écoute de l'émission Dialogue et Partage, produite par le collectif Dialogue et Partage. Eh bien, voilà, après 2 mois de vacances, nous sommes heureux de vous retrouver. J'espère que c'est réciproque. On vous a préparé un très, très bon programme pour la saison. Et on commence en fanfare, puisque voilà, dans notre studio, Viviane Teitelbaum, qu'on ne présente plus, mais enfin, députée régionale et maire, et qui défend le mieux possible, avec beaucoup de dynamisme et beaucoup de courage, les couleurs de sa communauté. Bonsoir, Viviane.
Bonsoir, Sarah. Bonsoir à tous les auditeurs.
Également notre amie Iseldine Abouelech, qui est médecin à Gaza et qui arrive donc de Gaza, pas seulement spécialement pour l'émission, mais pour voir ses amis du collectif Dialogue et Partage. Bonsoir Iseldine.
Good evening.
Et Loubna Ouriali, qui est déjà venue plusieurs fois cette émission, qui a réussi ses examens. Alors bravo Loubna.
Merci beaucoup.
Bonsoir. Voilà, alors on va tout de suite commencer avec Iseldine. Voilà, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Gaza? On est tous assez inquiets parce qu'on a l'impression qu'il y a deux régimes, un en Cisjordanie qui serait, disons, plus pacifique, en tout cas où on n'entend pas beaucoup de choses graves, comme on les entend à Gaza, au niveau notamment de la répression des libertés.
Yes, we would like to know, you're arriving from Gaza, what is happening? We are a little bit worried because there seem to be two heads to the Palestinian people, one that is much more repressive to freedom and the other one that seems to give a little more of leeway.
You know, as you know, I came from Gaza. Gaza is a place that which I remember is a place which is stigmatized by the word no. No life, no hope, no fuel, no health, no education, suffering. It's the only place, I think, in the world that is stigmatized by these things.
We will translate. Loubna. Vous savez, Gaza est un pays stigmatisé où il y a peu d'espoir, il n'y a pas d'éducation.
C'est un endroit qui est représenté par le mot absence, l'absence d'essence, l'absence de liberté, l'absence de vie, l'absence de santé, l'absence de toute chose en fait.
And
so it's a difficult life really, and I think it's the responsibility of everyone, of every human being, because the people are suffering, and no one is opening his eyes to witness this suffering of the majority of them are innocent civilians who are willing to live in peace and eagering for a better future for their lives, for their children.
Alors c'est un endroit où les gens en fait souffrent. Ils souffrent parce qu'ils n'ont pas de, ils n'ont pas d'avenir, ils n'ont pas et tout le monde porte une responsabilité dans cette souffrance et dans ce qui se déroule là-bas.
Mais on a l'impression, Iseldine, que néanmoins les Palestiniens ont reçu beaucoup d'aide. C'est en tout cas ce que disent les Européens. Où va cette aide alors, puisque la situation ne fait qu'empirer?
But the Palestinians receive a lot of money, a lot of help, but the situation seems to worsen every day. So where is this money going?
I think the needs of the people. It is not only money. They need.
But did they receive the money?
Of course, you know, I think the responsibility of the Palestinian Authority, the legal Palestinian Authority, under the authority of President Abu Mazen, Mahmoud Abbas, they received even in the previous, at the times of President Yasser Arafat, they received money and they did something. But life is not built by money. well-being is in need of health, freedom, environment, many other things which are collaboratively or multi-sectoral collaboration is needed for a human being.
Donc l'État palestinien a toujours reçu de l'aide, donc sous les présidents Yasser Arafat et Mahmoud Abbas, mais la Palestine n'a pas seulement besoin d'argent, elle est construite également, elle a besoin d'être construite également par une certaine collaboration et non pas seulement par de l'argent.
Elle a besoin de liberté, avez-vous dit. She needs freedom, you told.
Yeah, I think, you know, if you have a bird, put in a cage, in a prison, whatever quality of life, it will be difficult for him. All of us, we need our freedom as a human being. Mm-hmm. In general, freedom is vital for every well-being.
Donc la liberté est vitale pour l'être humain. Donc il ne peut pas en profiter s'il est enfermé dans une cage. Et c'est un bien essentiel.
And this freedom for you, Iseldin, is limited by who?
This freedom, really, the responsibility of both. You know, the Palestinians are striving to have their own independent state. And since 1967, what happened? And after the Oslo Agreement, we were looking to have a new era for the Palestinians and the Israelis to live in peace, in two independent states, close to each other, collaborating peacefully. Mm-hmm. But till now, I think, there was some progress in the peace agreement, but it is not fulfilling the needs of the two people even, the Palestinians and the Israelis. So there is part of this responsibility on the Israeli side and also on the Palestinian side. What is happening now in the Gaza Strip and this division in both sides, I think its major part of it is Palestinian conflict.
Après Oslo, il a pensé qu'une nouvelle ère avait commencé et que deux États pouvaient vivre dans une coexistence pacifique. Or, aujourd'hui, même s'il y a eu certains progrès, en fait, on n'est toujours pas arrivé à une solution positive, ni pour les uns, ni pour les autres. Et il faut penser qu'en fait, il y a une responsabilité partagée
entre Palestiniens et Israël.
Et en fait, il dit, non, il y a une responsabilité partagée de part et d'autre entre Israéliens et Palestiniens, mais il dit que l'importance du conflit aujourd'hui est palestino-palestinien.
Inter-palestinien.
Inter-palestinien. Mm-hmm. Est-ce que je peux poser une petite question?
Non, Myriam, Viviane, mais avec plaisir.
Parce que vous dites que, en fait, l'argent n'est pas tout et qu'il faut les libertés. C'est essentiel et je suis d'accord avec vous. Mais on dit aussi que le Hamas est arrivé au pouvoir, I will translate, que le Hamas est arrivé au pouvoir parce que justement les gens étaient démunis, vivaient dans la pauvreté, n'avaient plus d'espoir, et que ça a été une des raisons pour lesquelles le Hamas est arrivé au pouvoir. Et donc il y a une contradiction à ce niveau-là parce que cet argent devait servir quand même à l'éducation, à la santé, et il a été détourné. I will translate, you say that the money is not everything and freedom is important, but at the same time, analysts say that the Hamas came to power because people were living in poverty, they were living in despair, and they had no future. So there is a contradiction, and the money was supposed to help build health, planning, education, and it was used for other reasons. So money can also be a guarantee of freedom because it would have meant no Hamas if the money would have been used properly.
You know, I ran for the election, independent. And my mandate and my agenda was to fight against poverty, disease, education, to give the Palestinians the life that they deserve. Fortunately, I didn't succeed. Because if I succeeded, I would be stuck with the current situation. I think what you analyze, your analysis to the situation concerning the money, Palestinian Authority has been established in 1994, and you know, it's a new comparison to their age in history. 14 years, I am sure their performance is not going to be 100% perfect. There is corruption, and we admit, the Palestinians, they were criticizing that we have corruption. We have corruption, and the performance was not 100%. But to be honest with you, this corruption, even the Israelis were playing part of that. They give the Palestinians, some Palestinians, VIBs, some facilities, everything, aiming this will do something. But at the end, the Palestinians, when they voted for Hamas, they didn't vote for Hamas because they liked Hamas or they believe in Hamas. They voted to get revenge of the Palestinian Authority. And now, the majority regret for that.
Mm-hmm.
Some people, I heard from them, they will prefer to cut the finger which signed for that. Because now, they realize, even they say, the bad days better than the current days. We would bear the suffering and not to wait for these days.
Bon, alors on va traduire pour nos amis auditeurs.
Voilà, donc Izzeldin,
très courageuse Izzeldin. Oui.
Izzeldin explique qu'il s'est présenté aux élections comme indépendant pour lutter contre la pauvreté, pour l'éducation, pour une vie meilleure. Et quelque part, il est heureux de ne pas avoir été élu parce que s'il avait été élu, il aurait été coincé aujourd'hui dans la situation actuelle avec le Hamas. Il dit aussi que l'autorité palestinienne a été établie en 1994 et qu'elle existe depuis 14 ans et qu'elle a beaucoup de défauts. Qu'effectivement, il y a de la corruption, qu'ils l'ont admis eux-mêmes, qu'ils ont accordé beaucoup de passes de droit en espérant avoir certains avantages et que finalement, ça s'est retourné contre eux puisque les gens ont voulu prendre une certaine revanche et ont voté pour le Hamas parce qu'ils pensaient que ça allait effectivement sanctionner. Et qu'aujourd'hui beaucoup regrettent ce vote et qu'en Palestine on dit même qu'ils auraient aimé se couper le doigt qui a voté et qui a émis cette opinion.
And in addition to that, really, maybe the reason for that lack in progress in the peace process and also the second intifada which started in 2000, and this is one of the mistakes of the Palestinians, I should admit that. Militarization of this intifada was one of the main mistakes. And I hope, and also we admit that as Palestinians, but also I would love really to hear from my Israeli colleagues to admit sometimes what are their mistakes.
A lot.
Yeah, so it's important. We should realize the importance. If we admit that we made a mistake, this means this gives us the way to find the solution.
Alors, Lubna, vous allez traduire?
Ah non, pas traduire, justement une question. Juste.
Alors on va laisser Viviane traduire ce que vient de dire Izzeldin et on passe à ta question.
Mais donc il explique qu'il y a plusieurs raisons pour ce manque de progrès et que aussi il estime que la militarisation, l'intifada et la militarisation de l'intifada et avec ses conséquences était une erreur majeure du peuple palestinien. Parallèlement à ça, il aurait souhaité entendre aussi de la contrepartie israélienne de reconnaître certaines de ses erreurs parce qu'il dit que c'est à partir des erreurs reconnues qu'on peut avancer et progresser.
Pensez-vous qu'une intervention internationale aiderait à reconstruire le régime palestinien? Donc,
en anglais. Would you think that an international intervention would help to reconstruct the Palestinians?
The most important thing, I think, because now it's complicated. Honestly, this is which is a nightmare for the Palestinians. After this division and this internal Palestinian conflict, which is a wound, deep wound, the Palestinian cohesion, the social cohesion, has been, you know, weakened. So this is my dream now. How can we reunite? In addition to that, progress in the political process is highly important. Progress in the peace process. I hope, you know, but I am not sure of that, if they can achieve what President Bush is willing to achieve within the coming 3 months to have independent Palestinian state. I have big, big question mark concerning that. I am not sure of that.
Viviane.
Aujourd'hui, la situation est très compliquée et elle représente un vrai cauchemar. Les conflits palestiniens internes ont totalement miné la cohésion sociale interne et donc on se pose la question de progrès possible dans le processus de paix et il se demande vraiment si on peut encore arriver à ce que Bush a souhaité, c'est-à-dire un État palestinien indépendant.
Okay, we hope so that maybe it can happen. Lubna, do you have an answer to your question? Tu as eu la réponse? Tu as eu la réponse à ta question?
Yeah.
Okay. So thank you, Iseldin. Thank you for coming, and you will come back again to Radio Judaica since you will be here a few times, I hope, if everything is all right for you. Viviane Teitelbaum, j'aimerais parler très rapidement de l'action collective que nous avons menée, enfin que nous menons et qui va culminer demain jeudi à l'UGC Poisson d'Or qui réunit plusieurs institutions et qui est un succès de foule puisque on est sold out déjà depuis lundi et qu'on remplit la plus grande salle de l'UGC Poisson d'Or, ce qui était inespéré au regard de l'expérience d'image. Viviane.
Tout à fait. Tout à fait, Sarah. En fait, mon valse avec Bachir est projeté demain à l'UGC à 19h30. Il faut arriver à partir de 19h parce que on voudrait commencer à l'heure. C'est une soirée qui a été organisée, je dirais, vraiment avec la détermination et l'enthousiasme du CCJ, du Centre Ben Gurion, et à l'initiative, je dirais, du collectif Dialogue et Partage et d'Images. Et c'est vrai que nous avons décidé pour une fois, et sous le patronage de l'ambassade d'Israël, et ça je pense que c'est important aussi, et nous avons décidé pour une fois de mettre en commun tous nos efforts et toute notre énergie, et je voudrais déjà vous rendre hommage une première fois, Sarah, parce que je pense que vraiment votre détermination, votre enthousiasme par rapport à ça a été déterminante, et on a rempli la salle, c'est vrai, et on l'a rempli parce que Michel Georges Berto, CCFJ, Diane Culler, Owen Gourion, vous, pour le collectif Dialogue et Partage, à Image, c'était aussi, on s'est mis ensemble pour vraiment faire de ça un succès, et c'est un succès, parce qu'on a décidé que c'est un film qui aborde une problématique douloureuse, et nous avons décidé, comme le réalisateur Harry Folman, de ne pas l'instrumentaliser politiquement. Il ne le souhaitait pas, c'était pas son but. Il souhaitait l'aborder plutôt à travers le conscient et le subconscient, et c'est ce que nous allons faire, puisque nous allons l'aborder à travers le traumatisme, dans un dialogue entre Philippe Wojcik et Marcello Castellain, et je pense que c'était la manière de l'aborder pour avoir d'abord la communauté qui porte cet événement, et pour montrer qu'il y a des lectures différentes des choses, et pour lutter contre cette diabolisation d'Israël.
D'ailleurs, cet aspect psychologique, nous allons tout de suite l'aborder avec une interview de Marcel Castellain, qui est professeur à l'Université de Liège, qui est psychothérapeute, et qui sera d'ailleurs là demain avec Philippe Wojcik pour animer le débat qui suivra le film Valse avec Bachir. Si vous voulez aller, alors essayez d'arriver à 7h15, peut-être qu'il y aura encore quelques places libres, mais c'est pas garanti. Voilà, donc Marcello Castellain, interview.
Marcel Castellain, bonsoir.
Bonsoir.
Nous allons parler du film d'Harry Folman, Valse avec Bachir. Sur le site du collectif Dialogue et Partage, pour ceux qui n'ont pas le lien, vous faites dialogueetpartage.org. Donc sur le site du collectif, dans votre article La mémoire inventée, vous écrivez que le passé soit rejailli sans contrôle, soit se reconstruit. Ce qui voudrait donc dire que le passé ne s'oublie jamais ?
Absolument. Le passé n'est pas quelque chose, ou plus exactement l'oubli, ne doit pas être vu comme un éventuel déficit de la mémoire, mais au contraire comme un principe, un mécanisme actif. Le passé ne s'oublie pas, le passé se met éventuellement à l'écart, et plus le passé est mis à l'écart, plus évidemment il détermine notre existence. Il faut donc voir le passé comme un mécanisme actif, et si c'est un mécanisme actif, c'est un mécanisme coûteux, qui coûte en énergie, et qui condamne donc celui qui cherche à oublier, à éviter de manière de plus en plus systématique tout ce qui pourrait ramener ce passé à sa mémoire, étant entendu que nous parlons évidemment d'un passé qui serait traumatisant, en quelque sorte, un passé qui serait, pour des raisons qui appartiennent en général à l'individu, un passé qui serait inacceptable, quoi, qui pourrait être traité par la conscience.
Alors justement, c'est ce passé que va traiter le héros du film Valse avec Bachir, Et ce film est en fait une quête. Il allait à la quête de lui-même, à la quête en fait du rappel d'une période bien précise qui était celle de son service militaire, ce qu'il a passé au Liban lors de l'invasion de Beyrouth Ouest en 1982, et qui lui a donc donné l'occasion à ce moment-là d'être présent lors des massacres de Sabra et Shatila, et pas seulement présent puisque il aura un rôle actif, un rôle qu'il va enfouir pendant 20 ans dans sa mémoire. Et ce film, c'est une sorte de ode à la quête de la mémoire, c'est justement en fait le fait de faire ce film qui va lui permettre de se rappeler. Et qu'on doit tous faire des films ou faire des œuvres pour
on
se rappeler.
On doit tous faire des films et on doit tous faire des œuvres pour se rappeler de choses dont on ne peut pas se rappeler autrement.
On doit tous être des artistes, c'est ça ?
Ce que vous dites là est extrêmement... On doit tous être au minimum créateur de soi-même, c'est-à-dire de sa propre histoire. Oui, ça, on ne trouve pas. Ce qui est intéressant, c'est de voir, de souligner que dans le film, le personnage a un rôle actif, alors qu'au lieu du psychologue que je suis, il a au contraire un rôle passif. Ce personnage.
C'est-à-dire
que dans une deuxième phase, en faisant le film et en se remémorant, que l'auteur commence à devenir en quelque sorte acteur de sa propre histoire, c'est-à-dire qu'il se réintègre. Il dit, sans dévoiler le film, mais à un moment, il montre une photo de lui et il dit « je ne me reconnais pas ». En ça, pour le psychologue que je suis, une fois de plus, ce personnage, cet homme, ce soldat, a un rôle passif en quelque sorte. Il est animé par quelque chose qu'il ne reconnaît pas comme sien. En réalité. Et donc, parce qu'il y a une distance entre lui agissant et lui, en quelque sorte, auteur conscient et volontaire de ses actes, c'est cette différence, cette cassure-là entre les deux qui va non seulement fonder tout ça comme un traumatisme psychologique, mais en plus le condamner en quelque sorte à reconstruire cette histoire pour redevenir acteur de sa propre histoire. Je trouve que c'est quand même avec une élégance folle qu'il le fait, puisque finalement, quand on regarde le film, on regarde quoi ? On regarde Barry Folman, acteur et auteur à la fois de sa propre histoire.
Le film pose aussi la question de la valeur du témoignage humain, puisqu'en fait ici on voit bien que ce pari livre, c'est une perception subjective de la situation qu'il a vécue lors des massacres de Sabra et Shatila, c'est ça, de manière à lui d'en rendre compte, et... Quelle est la valeur, quelle est la caution historique d'une telle recension? Est-ce que, parce qu'en fait, l'histoire, elle s'appuie sur les témoignages des gens, sur des anecdotes, sur des événements relatés par des témoins, et on voit bien à quel point ces témoignages, parfois, sont extrêmement fragiles.
Oui, absolument. Mais ce film ne pose pas la question de la validité du témoignage humain, il y répond en quelque sorte. Que l'auteur nous dit clairement, et d'ailleurs dans ses interviews, Folman le dit lui-même, puisqu'il dit « j'avais envie de retrouver ma propre histoire », il ne dit pas « j'avais envie de laisser une trace d'un témoignage objectif de ce qui s'est passé là-bas ». C'est sa propre histoire qu'il reconstruit. Donc en fait, le film est une excellente démonstration psychologique du fait que le témoignage humain n'a strictement aucune valeur. Alors je sais que ça peut paraître un peu déroutant, de penser une chose de manière aussi excessive, aussi apparemment excessive, mais le témoignage personnel et individuel ne peut pas être pris en compte pour fonder une trace ou un témoignage qui aurait valeur historique, naturellement.
Vous écrivez d'ailleurs, il n'est pas certain du tout que la mémoire individuelle et donc la somme des mémoires individuelles soit la meilleure voie d'accès au passé comme vérité. Mais il est par contre absolument sûr que l'homme ne puisse jamais faire l'économie de ce travail de mémoire.
C'est ça, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a le mécanisme psychologique, on n'a pas le choix de se construire. Il ne faut pas oublier tout de même que, de nouveau, même si ça paraît déroutant, en dernière analyse, nous ne sommes jamais qu'une fiction pour nous-mêmes. C'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler le moi en psychologie n'est jamais qu'une construction. Alors cette construction, bien entendu, ne s'enracine pas dans n'importe quoi, elle s'enracine bien dans une réalité. En fait, c'est tout de même singulier de voir que, par exemple, des frères et sœurs d'une même fratrie ont des souvenirs en commun et un vécu qui peut être diamétralement différent. Les uns trouveront leur père extrêmement sévère, alors que l'autre, un autre, dira au contraire « mon père était un homme doux et patient ». C'est totalement indépendant de l'attitude objective du père, même si ça paraît déroutant. Une preuve de pour essayer d'illustrer un peu ce mécanisme, c'est qu'on sait tous qu'il y a différents niveaux de vérité. Un juriste ne se trompe pas sur cette question-là. Un juriste ne prétend pas détenir une vérité, il parle de vérité juridique. De la même manière, un psychologue est tenu de parler de vérité psychologique. Le psychologue, par essence, n'a rien à dire de la réalité quand il écoute quelqu'un. Il y a aussi une vérité historique. Alors là, ça rentre dans un débat qui concerne plus les historiens que les psychologues, naturellement, qui est comment est-ce qu'on fonde en vérité une histoire. L'avis du psychologue là-dessus, c'est que le témoignage individuel et même le témoignage collectif ne peut bien entendu pas avoir valeur de vérité objective.
Donc quand un groupe de personnes déclare toutes avoir vu la même chose, elles peuvent toutes se tromper.
On peut être à peu près sûr qu'elles se trompent toutes, oui. Ça va jusque-là, oui, absolument. Il y a des expériences qui ont été...
Alors, comment fonder des convictions?
Ça, c'est autre chose, oui, mais si j'ai choisi d'être psychologue, c'est précisément parce que je ne m'embarrasse pas de la conviction, naturellement. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de conviction absolue. Alors, évidemment, tenir ce discours-là est un discours extraordinairement dangereux, et si ce n'était pas à vous que je le tenais, je m'y méfierais beaucoup. C'est-à-dire que c'est ouvrir la porte à toutes les interprétations possibles de l'histoire, et on voit très bien où ça mène. Donc, il ne faut pas faire des propos d'un psychologue, et c'est peut-être pour ça que certains psychologues se taisent à ce point-là, il ne faut pas faire des propos d'un psychologue ce qu'ils ne sont pas. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une vérité objective, ça veut dire que la distance entre ce qu'un individu perçoit et puis ce qu'il va en faire est telle qu'on ne peut raisonnablement pas penser que ça entretient le moindre rapport avec une vérité objective. Une autre preuve, les gens démarrent une psychothérapie, ils nous racontent une histoire. Un an, trois ans, cinq ans, parfois 20 ans après, ils nous racontent la même histoire. 20 ans auparavant, ils en étaient malades. 20 ans après, ils en sont fiers. C'est pourtant apparemment... Il s'est passé qu'ils ont pris à leur compte leur interprétation, naturellement, de leur histoire. Ils se rendent compte, ils font le travail qu'on est en train
de faire. Et l'interprétation peut être complètement fausse?
Bah, complètement fausse, on n'en sait rien. Maintenant, ce n'est pas quantifiable, naturellement. L'écart entre les deux n'est pas quantifiable.
Elle pourrait être complètement fausse,
oui,
et quand même leur procurer une satisfaction.
Bien entendu, oui.
Quand même.
Oui, bien entendu. C'est du bricolage, mais pas dans le sens péjoratif du terme.
Alors, à propos justement de la relativisation de la réalité, ou en tout cas de différentes perceptions possibles des situations, ou d'un événement, on voit bien que ce film lui-même a pu être très très mal compris. Certains critiques, qui sont quand même normalement censés être des spécialistes, des professionnels, ont pu complètement déraper. On lit notamment ce que Fernand Denis, par exemple, écrit dans La Libre. Alors, je vais lire tout l'extrait, je pense que c'est assez éclairant. On s'interroge sur la nécessité de passer par l'animation, puisque Bachir est un film d'animation. Ce pourrait être un documentaire classique, mais certains refuseraient de parler face caméra. On pourrait aussi le mettre en scène, mais ça, alors, je finirais d'apporter son concours au récit d'un moment peu glorieux et même bien pire de l'histoire d'Israël. Il ne restait plus que l'animation à Harry Folman pour tenter de montrer l'immontrable. Sa mémoire même a effacé les images. Quand elles surgissent, bien réelles, celles de femmes palestiniennes devant les corps des victimes de Sabra Shatila, c'est un choc. Ce film israélien aussi, un choc aussi violent que celui éprouvé par un juif qui se découvre en uniforme nazi dans le ghetto de Varsovie.
Alors, ce commentaire est l'exemple type de commentaire abusif. C'est-à-dire qu'on peut dire tout ce qu'on veut de ce film, sauf ça, précisément. C'est-à-dire que le danger de ne pas percevoir toute la dimension psychologique de ce film réside exactement là-dedans. À partir du moment où on a une vision, je dirais, engagée politiquement de ce film, et c'est le droit de chaque spectateur, soyons clairs, peut-être un peu différent pour les journalistes, à partir de ce moment-là, à partir du moment où on néglige toute la dimension psychologique, on est forcément par essence dans l'erreur. Folman nous dit lui-même, cet article, enfin cet extrait d'article, est un déni de ce que l'auteur a voulu faire. L'auteur se reconstruit devant nous, il le dit, il dit qu'il a utilisé l'image parce qu'il était conscient qu'il avait affaire à une fiction et non pas à une réalité. Ce n'est pas un documentaire, c'est pas un documentaire au sens habituel du terme. On n'est pas dans le livre de la caméra objective. Alors le danger, si on passe à côté de ça, ben, c'est exactement le même danger que nous rencontrons à différents moments de notre travail. Je peux prendre un exemple. Nous sommes amenés quelquefois à faire des expertises sur les abus sexuels sur les enfants. Il est évident que si on prend les propos de l'enfant à la lettre, et je crois que c'est le piège dans lequel tombe ce journaliste quand il commence le film, dans quasi 100% des cas, on en déduit qu'il y a abus. Or, c'est rarissime, l'abus est rarissime. C'est confondre le fantasme, confondre ce qui ressort d'un test projectif sur un enfant avec une réalité. Ce que le psychologue doit accepter, c'est qu'il n'a pas accès à cette réalité. Ce n'est pas parce qu'il y a abus qu'il y a traumatisme, même si ça paraît scandaleux, ce n'est pas parce qu'il y a traumatisme qu'il y a abus non plus. Et je trouve qu'ici, le film le dit quand même assez clairement. Alors, venir maintenant injecter dans ce film, qui est un film sublime, s'il est compris dans sa dimension psychologique, venir injecter une interprétation politique comme celle-là...
Pourtant, Henri Forman est bien clair lui-même quand sur son site donne le synopsis du film, ou en tout cas sur le site du Festival de Cannes, il indique bien clairement qu'il s'agit évidemment d'une thérapie, que le film a une valeur cathartique, comme la thérapie, et il déclare la quête de souvenirs traumatiques enfouis dans la mémoire est une forme de thérapie, une thérapie qui a duré aussi longtemps que la production du film, 4 ans. Ça vous paraît un timing normal pour une thérapie ?
C'est assez court, finalement.
Au cours de cette période, je sciais entre la dépression la plus noire, engendrée par les souvenirs retrouvés, et l'euphorie du projet de film, avec cette animation novatrice qui avançait bien plus vite que prévu. Si j'étais vraiment passionnée de psychothérapie, je penserais que ce film m'a transformée en profondeur, mais je dirais plutôt que réaliser le film était la partie agréable et la thérapie la partie douloureuse. Alors pourquoi la thérapie c'est la partie douloureuse? Et c'est pas seulement pour Solman, évidemment, beaucoup de gens l'éprouvent.
C'est parce que quand on est son propre thérapeute, on ne voit que la moitié des choses en réalité. Hein. Le film lui-même fait partie de la thérapie naturellement.
Son propre thérapeute, ça peut-être pas, parce qu'on voit bien qu'il va voir un thérapeute dans le film à plusieurs reprises.
Oui, tout à fait. Mais enfin, ici, c'est Solman qui parle de Solman, qui parle de la thérapie de Solman. On est en général le moins bien placé pour parler de sa propre thérapie. Hein. Donc c'est lui qui est encore.
Enfin bon, quand même, sujet de la thérapie, mais moins bien placé pour en parler.
Je pense naturellement, oui, bien sûr. Dans une thérapie, on ne vit pas ce qu'on pense vivre. Hein? On vit quelque chose, on se rend compte.
Le thérapeute vit aussi quelque chose qu'il pense vivre à propos de son patient.
Hein?
Donc tout le monde est dans un pur imaginaire.
Non, mais dans quelque chose de l'ordre de la fiction. Mais la fiction, enfin, c'est une question de thème. La fiction et l'imaginaire, ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que, de toute manière, tout ce qu'on peut dire de tout ça, c'est quelque chose qu'on se raconte. On peut prendre comme comparaison, c'est le rêve, qui est très présent dans le film sous forme de délire, mais enfin, c'est un peu près le même genre de mécanisme. On ne peut rien transmettre d'un rêve si ce n'est le récit d'un rêve. Et nous savons tous très bien, pour en avoir fait l'expérience, que le récit d'un rêve n'a que très peu à voir avec le rêve lui-même, avec toute sa complexité, sa richesse, que par définition, puisque c'est un rêve, on ne peut pas transcrire dans le récit. Donc, ce n'est pas que je n'accorde pas de crédit à ce que dit Folman de lui-même, bien au contraire. Et ce n'est pas non plus que je veux faire l'économie du problème de Sabra et Chocula. La question n'est pas là du tout. C'est parce que vous m'avez engagé sur la question de la vérité du témoignage, en réalité. Eh bien, je ne vois pas... Quand Folman dit ça de lui-même, il est simplement dans un mécanisme que nous appelons au clivage, où il dit le côté désagréable, c'est la thérapie, le côté agréable, c'est le film. Ça, c'est lui qui le voit comme ça. Moi, en tant que thérapeute, je dis le film, c'est la partie.
Oui, mais que là, bon, ça veut surtout dire que... la thérapie en l'occurrence, c'est évidemment ce que ça a mis à jour, c'est-à-dire son propre rôle, et que ça, ça n'était pas agréable, on peut imaginer évidemment, que c'est jamais agréable de découvrir qu'on a été, qu'on a aidé des assassins quelque part. Hein,
oui, pas plus que ça n'est agréable de découvrir qu'on a été battu alors qu'on y est pour rien. Il ne faut pas mélanger les choses. Mais de nouveau, ça supposerait. Enfin là, je vais prendre la position du psychologue et du psychothérapeute devant. Ça supposait qu'une psychothérapie s'arrête quand les souvenirs désagréables sont revenus à la mémoire. Aux yeux du psychologue, je ne veux pas dire qu'elle commence, c'est un peu excessif, mais elle continue.
Hein? Ah, d'accord, elle va bien s'arrêter à un moment donné.
Elle va bien s'arrêter à un moment donné. Quand on
et son film, par exemple, on peut dire que ça a arrêté, lui a permis d'arrêter la thérapie.
Ça, je n'en sais rien, il faut lui demander à lui, mais en tout cas, il est en bonne voie de guérison, si vous voulez. Voilà. Mais
pour revenir à l'extrait que je vous ai lu de la critique de Fernand Denis, critique cinématographique de la Ligue, est-ce que cette manière de percevoir un film, est-ce que ça ne trahit pas des préjugés à l'œuvre en définitive?
Naturellement, il y a...
C'est quand même aussi ceci que je voulais soulever, excusez-moi tout à l'heure, Sabra et Chocula, c'est 700-800 morts, peut-être 3000, les chiffres ne sont pas clairs là-dessus, un acte qui est reconnu comme génocide par les Nations Unies. Il faut quand même bien avoir à l'esprit que Sabra-Shatila se passe en 82. Il y aura d'ailleurs un deuxième Sabra-Shatila quand les Israéliens ne seront plus là, mais dont on parlera beaucoup moins. Ça se passe en 82. En fait, le Liban est en guerre depuis 1975. Et ça va durer, c'est ce qu'on appellera les guerres du Liban, ça va durer jusqu'en 1990. Ces guerres ont fait 150 000 morts. 150 000 morts, anonymes pour la plupart, sans sépulture pour la plupart, et on n'en parle pas. Les seuls qui ne sont pas complètement tombés dans l'oubli, ce sont les morts de Sabra-Shatila. Les autres, ces résultats de guerres, de luttes interpalestiniennes entre différentes factions, ou bien de luttes entre les chiites et les sunnites, ou entre les chrétiens et les musulmans, ou entre chrétiens différentes tendances elles-mêmes, bref, et évidemment, où les Syriens ont jeté de l'huile sur le feu partout où ils pouvaient. Donc, les Syriens, pour leur part, ont, dans le village de Emma, commis en très peu de temps un assassinat dont certains évaluent le résultat à 25 000 morts en 48 heures. Donc, pourquoi Sabra-Shatila reçoit cette place d'élection dans la mémoire collective, puisqu'on a été jusqu'à déposer plainte contre Sharon sur base de la loi de compétence universelle qui a été abrogée depuis et qui mettait évidemment la Belgique dans une position difficile diplomatiquement et contre Sharon, mais pas contre Obeka qui était le principal responsable de ces attentats. Sharon qui était, on voyait dans des manifestations dans ces années-là, 2002, par là, 2003, 2004, des grands panneaux, Sharon le boucher de Sabra-Shatila. Bon, Sharon a une responsabilité, on ne va pas l'exonérer. D'ailleurs, il a été jugé, enfin, puisque la commission Kahane qui a instruit l'affaire en fait, de Sabra-Shatila, le massacre de Sabra-Shatila, ont conclu à la responsabilité indirecte de Sharon et il a été démis à ce moment de son poste de ministre de la Défense. Et pendant quelques années, il a croupi dans l'ombre sans responsabilité politique. Alors pourquoi Sabra-Shatila et pas les autres 150 000 morts des guerres du Liban.
Alors, vous avez bien conscience que me poser une question pareille appelle une série de réponses en chaîne et que, à la limite, on n'arriverait pas au bout. Mais je ne vais pas me dérober. Je voudrais apporter un éclairage psychologique sur cette question. Pour le reste, je ne suis pas politologue et je ne crois pas que je suis qualifié pour y répondre vraiment. Mais nous sommes dans un mécanisme que nous, les psychologues, appelons la projection. C'est-à-dire que, et on a l'exemple ici dans cette critique de ce journaliste, quand on lit son article, on a l'impression qu'il n'a pas vu le film. On a l'impression qu'il s'est fait un film à partir du film. Et qu'en réalité, il projette sur le film. Alors, la projection, c'est un mécanisme très puissant. On est tous plus ou moins atteints de ce mécanisme-là, mais on ne projette pas n'importe quoi sur n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il faut que l'objet de la projection ne résiste pas trop. C'est toujours les mêmes qu'on va accuser tous les mots. On le sait très bien, pour être un mot commissaire, il faut certaines caractéristiques. Alors, quelles sont ces caractéristiques? En général, l'idée d'une non-appartenance à un groupe donné, par exemple. Alors, on ne peut pas nier, bien entendu, que dans son histoire, le peuple juif a été l'objet d'une série de projections assez invraisemblables, que dans son histoire, Israël est l'objet de projections assez invraisemblables, mais tout se passe comme s'il y avait une espèce, qu'il y avait à l'origine de cette projection comme un sentiment de défaut de légitimité chez l'autre. C'est-à-dire, je peux faire ça de toi parce que tu ne t'en défends pas ou parce que je considère que tu n'es pas suffisamment légitime pour que, à la limite, je ne m'autorise pas à projeter des choses comme celle-là. Alors, je ne sais pas si ça répond à cette question parce qu'elle est trop vaste, mais il y a quand même là un début d'éléments, un début de mécanisme psychologique qu'on peut mettre en route. C'est vrai que c'est singulier, on peut s'étonner si on oppose cette espèce de mathématique un peu macabre à la perception de la réalité, eh bien on s'aperçoit qu'en réalité on n'est jamais que dans ce film. Ce que ce film nous montre aussi, c'est que la réalité n'a entre un milliard de guillemets aucune importance pour l'auteur. C'est un peu le même mécanisme, c'est-à-dire que quelle que soit la perception, on va plaquer une histoire sur les choses Et ce qui est assez à théorie et assez subtil, c'est qu'on va croire à cette histoire comme étant la vraie histoire en déniant la perception elle-même. Je ne sais pas si c'est pas un peu trop technique et un peu trop complexe, mais vous savez, la plupart du temps, quand on dénonce une chose, c'est pour éviter de parler d'autre chose. Hein. C'est extrêmement pratique, évidemment, de remplir les colonnes des journaux d'événements qui, en soi, sont probablement critiquables, mais qui ont fait un nombre de victimes relativement limité. C'est infiniment plus pratique de faire ça. Je peux prendre un parallèle. C'est plus pratique de faire une marche blanche pour un pédophile. Ça permet de nier, évidemment, tout ce qui relève de la sexualité infantile, de la sexualité adulte perverse, etc. Et vous avez une société qui, en même temps, déverse sur Internet de la pornographie à flux continu et qui est capable de descendre dans la rue pour s'offusquer de quelque chose qui est, évidemment, critiquable, mais qui touche un individu isolé. Hein. Donc, cette manière de mettre en exergue quelque chose permet de faire l'économie du traitement de tout reste et de donner bonne conscience en général, parce que c'est de ça qu'il s'agit.
Voilà, chers auditeurs, c'était donc Marcello Castelin, qui est membre du collectif Dialogue et Partage, qui est psychothérapeute, qui est maître de conférences et chercheur à l'Université de Liège, et que vous pourrez entendre demain au cours du débat qui suivra le film Valsuit Bachir. Voilà, vous savez qu'on est déjà sold out, mais enfin bon, vous pouvez toujours tenter votre chance. Si vous arrivez très, 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 très tôt, peut-être que vous aurez quelques petites places que Image aura gardées pour vous. Alors, on va terminer cette émission avec notre amie Iseldin Abouelech, docteur en médecine qui pratique à Gaza, qui est de passage en Belgique pour venir voir ses amis du collectif Dialogue et Partage, et Loubna Ouriali, qu'on a déjà entendu plusieurs fois ici, et qui nous accompagne dans la traduction des propos de Iseldin. You wanted to say something more, Iseldin?
Maybe what I want to say, because my discussion and even the questions, even in the song, there was something, living together. I think there is the possibility to live together as Palestinians and Israelis. If there were serious negotiations and sincere will from both sides to have this new life and a new era in the nature of the Palestinian people. And I think there was a good saying, Herzl said, Im tirtzu ein zu agada. If there is a will, there is a way. And also, I want to remind, there is a Palestinian proverb which says, a small house can fit 100 of friends, but can't fit for 2 enemies. This small holy land can fit for the Palestinians and the Israelis to live in peace, in harmony, equally, collaborating together in love with each other.
Loubna, vous voulez traduire
Voilà. Il vous a dit, donc, à propos de la discussion de la chanson que nous avons entendue tout à l'heure, que la responsabilité de
la coexistence.
Voilà, la coexistence donc des deux peuples et des deux côtés également, donc du côté palestinien et du côté israélien. Iseldin voulait rappeler également un proverbe palestinien qui disait « Ce que tu fais à ton prochain, est-ce que tu pourrais te le faire à toi-même ? Accepterais-tu qu'il te le fasse à toi-même ? » Et c'est la question que les Palestiniens...
C'est universel, hein, parce que ça existe dans la tradition juive et dans la tradition chrétienne. Également, hein, ton prochain comme toi-même, ne fais pas autrui ce que tu voudrais pas qu'on te fasse.
Et donc, il reporte ceci aux Israéliens et aux Palestiniens.
Et il a aussi cité Herzl qui dit s'il y a une volonté, il y a une possibilité.
Yeah. There is anyway, thank you so much, and I hope this dream to live together in peace in 2 independent states to be soon and to enjoy it. The 2 nations and even the people from the surrounding areas. And
can you tell it in Arabic also? Because we have a lot of Arabic people listening.
أتمنى اليوم اللي يجي إنه يعيش الشعب الفلسطيني والشعب الإسرائيلي كل واحد في دولته المستقلة وكل واحد يأخذ حقه اللي محتاجه
بتعاون, وإن شاء الله اليوم هذا يكون قريب, لأنه ما في مفر إلا أنه نعيش بسلام مع بعض, ما واحد يعطي للثاني ظهره.
Can you also say in Arabic that you are coming from Gaza and that you are Palestinian doctor?
جاي من غزة وجيت, يعني قدومي من غزة ليعطي الأمل والانطباع إنه أهل غزة شعب يحتاج ويستحق الحياة ويستحق الرعاية من كل إنسان على هذه الأرض, لأنه ما مش ممكن في القرن 21 ويكون شعب بعاني حتى هذه اللحظة.
أني نيبرو هالسو؟
أني خشيف شاني قاعتي معزلة تكذا شيشف شروط لخيوت بشلوم بشلفا بدو كيوم بشيفيون, وزي ما شاني خشيف كل زمان زي ما شاني أمر بشيفيون لشني الزديم شيفيون أخي خشوب ولستكيل إخاد على هشيني بقوبة عينايم.
Merci beaucoup Izzeddine Abouelesh. Alors voilà, vous avez donc entendu Izzeddine, qui est médecin à Gaza et qui tient un discours magnifique. Voilà, alors pour tous ceux qui s'imaginent que les Palestiniens ont une Kalachnikov dans leur berceau, ben voilà, ça devrait remettre un petit peu en question leurs préjugés. Et pour tous ceux qui créent leur fonds de commerce à partir d'une supposée hostilité génétique entre juifs et arabes ou entre israéliens et palestiniens, eh ben il faudra aussi qu'ils revoient un petit peu leur classique et qu'ils nourrissent leur fonds de commerce avec politique notamment ou associatif ou autre avec d'autres combats, parce que avec des gens comme Zedline, Loubna et tous ceux qu'on invite le plus souvent à notre émission et les membres du collectif Dialogue et Partage, eh bien on est quand même sur la voie de la paix et en tout cas du dialogue. Voilà, merci à tous, merci Loubna, merci
Tara,
thank you Izzeddine, et
you so
Mabrouk Ramadan, hein.
Thank you so much and I hope this Ramadan will
voilà.
Be
eh bien c'était l'émission Dialogue et Partage, au micro Sarah Brebar, émission produite par le collectif Dialogue et Partage. À la semaine prochaine.